Ne laissez personne derrière. Cette série est un projet de la House of African Feminisms, la maison des féminismes africains, qui est elle-même un projet du Goethe-Institut Afrique subsaharienne, où nous explorons l'intersectionnalité dans les féminismes africains. Et j'ai le grand, grand plaisir d'accueillir Eleonora Miano. Je vous souhaite la bienvenue de Akwaba à cette quatrième conversation. Léonora, vous êtes mon invitée. Ma mission avait été d'inviter des féministes africaines. Ah, vous voyez où je veux en venir, non? Mais j'ai dérobé un peu la règle. Je dis, attends, j'invite Léonora Miano. Ah, on va parler de l'autre langue des femmes. Toutes les personnes à qui je parle de Léonora Miano me disent, ah, mais oui, mais Léonora Miano est faite dans la provoque. Mais pourquoi Dieu n'est pas féministe alors qu'elle est féministe? Léonora, êtes-vous féministe?
Non, je ne suis pas féministe, mais je pense que ce n'est pas la question. La question pour les femmes qui m'aiment bien et qui se définissent comme féministes, ce serait de savoir est-ce que je suis anti-féministe? Je ne le suis pas. Si je ne me dis pas féministe, est-ce que j'agis de manière à saper le travail des féministes? Je ne pense pas. Mais je suis quelqu'un qui ne tient pas à cette étiquette, hein, en particulier de nos jours, parce que je la trouve extrêmement confuse. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'action politique de femmes, quelle qu'elle soit et où qu'elle se trouve, a vocation à devenir un féminisme. Or, le féminisme tel que je le comprends est une doctrine politique. Ce n'est pas un truc à géométrie variable. Ce n'est pas un truc qui s'adapte à toutes les situations. Il y a un moment où on doit pouvoir dire le féminisme, c'est ça et ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on ne peut plus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je suis une fière subsaharienne qui en a ras-le-bol que, on doit toujours se définir dans des termes. Qui nous viennent d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faille nécessairement récuser tous les apports étrangers, loin de là, mais enfin, j'ai très à cœur que, à partir de maintenant, les Africains subsahariens soient en mesure de proposer des concepts et de les imposer aux autres, en particulier en ce qui concerne les vécus féminins, mais les autres, ce sont nos petites sœurs. La première fois que des femmes ont exercé le pouvoir politique sur la Terre, c'était en Afrique, d'accord? La première fois que des femmes ont été à la fois gouvernantes, militaires, mères, épouses, grandes prêtresses, c'était sur ce continent. Je veux qu'on entende ma protestation et mon invitation à nous toutes de pratiquer avec ardeur la désobéissance épistémique pour apprendre, pour nous réhabituer à nous dire dans des termes que nous avons choisis. Et pas toujours prendre un vocabulaire non seulement exogène, mais dont nous voyons bien, quand nous le prenons, qu'il ne nous convient pas tout à fait. Et c'est bien pour ça qu'il faudra toujours ajouter une petite mention derrière. On sera toujours féministe, mais avec ceci ou cela qui n'est pas conforme à la doctrine telles que pensées par celles qui ont bâti la grande maison, quoi.
Tu parlais aussi de la question du féminisme dit africain, en fait. Je vais lire un petit extrait, hein. Il existe depuis les années qui suivirent les indépendances en Afrique subsaharienne. Un féminisme dit africain, né dans des sociétés déstructurées par la colonisation, évangélisées quand elles n'avaient pas été islamisées auparavant, et où les rôles des deux sexes ne respectent plus les équilibres d'antan, le féminisme dit africain formule l'exigence d'une reconnaissance de l'apport et de la place des femmes dans la société sans faire appel à la notion d'égalité. La voix des femmes, loin d'être partout étouffée dans l'Afrique ancestrale, même au sein des sociétés patriarcales, est sistement reléguée au second plan dans l'univers colonial. Le nouveau monde post- et néocolonial interdit aux femmes d'avoir une activité ou de se déplacer sans y être autorisées par leur père ou leur mari. Ces messieurs ont parfois le droit, de façon tout à fait légale, de battre ses épouses qui dépendent souvent d'eux sur le plan financier. Le droit matrimonial admet souvent la polygynie pratiquée autrefois. Certaines des libertés dont pouvaient jouir les femmes dans ce contexte sont désormais vues comme des délits. Et tu prends l'exemple de la société Bassa du Cameroun, dans laquelle la femme mariée pouvait avoir un amant, lequel était connu de son époux, et on a une citation de Were Were Le King ici. Donc il y a cette méconnaissance en fait de nos récits qui peut-être, est-ce que c'est cela qui nous pousse à demander, à exiger cette égalité avec les hommes, par exemple?
C'est pas tellement la méconnaissance des récits, même si on peut parier qu'elles les méconnaissent, c'est surtout voilà leur quotidien qui les pousse à formuler cette demande. Mais ces jeunes femmes ont vu le jour et grandissent dans des sociétés qui ont été transformées par l'influence européenne, dans des sociétés où, comment dire, le domaine des femmes tel que connu autrefois a été déstructuré et où les hommes exercent souvent des formes de pouvoir qui ne leur étaient pas, en tout cas qui n'étaient pas absolues, aussi absolues qu'elles le sont devenues après la colonisation. On n'est pas dans l'égalité telle que demandée dans le féminisme européen, occidental. On est dans un besoin d'équilibre qui dépasse même la question politique, puisque dans cette Afrique ancestrale, on va dire, dans ces sociétés ancestrales, on est dans une recherche qui est à la fois sociale, politique donc, mais aussi métaphysique. L'équilibre qu'on recherche, il n'est pas seulement dans la matière, il est à tout niveau. Et c'est bien pour ça qu'on ne peut pas se permettre de négliger la partie de la communauté qui donne la vie. Il est impensable de régler les affaires du groupe sans qu'elle ait son mot à dire à un moment donné, quoi, en l'excluant tout à fait. Le matriarcat, qui ne se définit donc pas par la domination des femmes sur les hommes et sur le reste de la société, le matriarcat, c'est plutôt un environnement dans lequel les femmes sont reconnues et respectées d'abord en tant que mères, parce qu'elles donnent la vie. C'est-à-dire que cette dimension-là est très, très importante dans la société matriarcale. Le matriarcat, pour nous aujourd'hui, relève du fantasme, quoi. Il n'y a pas un endroit où on peut aller en se disant qu'il y a vraiment une empreinte profonde du matriarcat. Nous, les subsahariennes, nous confondons souvent une société matrilinéaire avec société matriarcale. On a beaucoup de sociétés africaines dans lesquelles la matrilinéarité était pratiquée et le reste même, c'est-à-dire que ce sont des sociétés où le pouvoir, par exemple politique, va émaner de la lignée féminine. C'est-à-dire que le chef sera chef par le sang de sa mère. Hein? Mais c'est quand même lui le garçon qui est chef. C'est pas sa sœur. Hein?
Non.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la femme dans cette société-là, elle donne le pouvoir, mais c'est pas elle qui l'exerce. Ce sont des sociétés où elles seront reconnues, où elles ont leur part de pouvoir, mais elles n'ont pas la totalité du pouvoir, comme dans le patriarcat, où on peut dire que l'homme a la totalité ou la quasi-totalité du pouvoir.
Ah, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une âme de chercheuse, ça m'a fait un peu sourire parce que je découvre dans le livre que ce système d'État-nation que nous avons aujourd'hui, il est depuis l'époque néolithique, donc moins 11 000 ans avant notre ère. Ce n'est pas maintenant qu'on va arriver à bousculer tous ces fondements qui ont été mis sur pied. Et pas que par des hommes, hein. Je pense que le choix a été collectif, même si vous dites dans le bouquin, peut-être que les femmes ne savaient pas à quoi ce choix-là mènerait pour elles, en fait.
qu'on ne saura jamais comment ça s'est passé. Le néolithique, c'est peut-être pas la naissance en tant que telle de l'État-nation, mais en tout cas, c'est le fait de se poser quelque part qui te donne des biens à protéger, une famille à protéger, qui fabrique chez l'humain une logique qu'il n'avait pas avant quand il se promenait de territoire en territoire et que selon les saisons, il se nourrissait simplement de ce qu'il trouvait là, qu'à partir du moment où tu commences à fabriquer ton logement, ta richesse, tes champs, tes machins, tes trucs, tu as beaucoup, tu te donnes des choses à perdre. Tu te donnes toi-même des choses à
Oui.
perdre. Et à partir de là, tu es obsédé par l'idée de protéger ce qui, d'après toi, t'appartient, ton territoire et tes femmes. C'est à travers les femmes que tu te donnes un avenir dans l'éternité, que tu te projettes dans l'éternité, puisqu'elles te donnent une descendance, les femmes. Et c'est un apport incommensurable.
Absolument, c'est elle qui te permet d'être l'homme, le mâle.
Mais c'est ça, et de l'être pour l'éternité.
Une autre chose dont on pourrait aussi parler pendant longtemps, bah, c'est cette question de la sororité. Vous dites, voilà, la sororité reste, la sororité entre guillemets, hein, reste une vue de l'esprit, compte tenu des rapports de domination existants entre femmes. Et pas seulement qu'entre femmes subsahariennes et femmes occidentales, mais même entre femmes subsahariennes. Et vous donnez l'exemple encore dans l'histoire de cette reine qui est souvent vénérée dans les cercles féministes africains et ou afro-descendants. Je veux parler de la reine Ujenga. Ah, et je pense qu'elle est superbement valorisée ben, parce que voilà, on se dit, elle a tenu tête au portugais, en oubliant que quand elle est en tête, elle s'est assise sur une autre femme. Je me dis, mais...
Et oui, et moi sur cette gravure, je ne vois que l'autre femme. Je ne vois que cette esclave de Njinga qui était aussi une femme, mais qui n'était pas une femme à son niveau. Pour elle, ce n'était même pas une personne, puisque après cette scène fameuse, elle abandonne sa servante. Elle abandonne sa servante. Ce sont les Portugais qui lui demandent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la servante, en plus, est restée à genoux. Et Njinga dit que, voilà, cette servante qui lui a servi de siège, ben, elle est reine, elle n'utilise pas un siège, le même siège deux fois. Et que donc les Portugais n'ont qu'à disposer de sa servante. Et bon, la sororité, tant que les femmes sont des êtres humains, hein, moi j'ai la faiblesse de croire ça, qu'elles sont avant tout des êtres humains, et l'être humain a le goût de la domination. Et donc, les femmes aussi savent exercer leur pouvoir de façon négative sur d'autres femmes, et sur notre continent, elles ne s'en privent pas. Combien de petites bonnes dans les villes africaines sont martyrisés par des femmes. Combien? En dehors de ça, il y a le fait que nous vivons dans des sociétés où les femmes ont appris à être rivales pour obtenir les faveurs de l'homme, pour se les garantir, et que dans de tels environnements, les féministes les plus affirmées, quand il s'agit de se battre pour un garçon, elles sont pas du côté de l'autre fille. Hein. Elles sont prêtes à l'agresser même comme il faut, s'il faut la tuer. Ah ben oui. Donc ça, ce sont nos réalités. Donc c'est bien beau de parler de ça comme ça, la sororité. Ce serait sans doute fantastique, mais je ne sais même pas si on peut l'envisager. Je me dis simplement que ce serait déjà bien si on arrivait entre femmes à pas être constamment dans la rivalité, à ne pas se savonner la planche, à s'écouter, à accepter la liberté de l'autre, à pas forcément demander, mais pourquoi Léonora ne dit-elle pas qu'elle est féministe? Parce que si elle le dit pas, ça veut dire qu'on peut pas être copine avec elle. Ah ben moi, je suis votre copine, mais je suis pas féministe. Arrivons déjà à faire ça, parce qu'il y a trop d'autres problèmes qu'on va pas régler tout de suite.
Je vais arrêter moi mes questions pour l'instant. Il y a Afo qui dit, Madame Yano, dans votre livre, vous mentionnez que les subsahariens, bien que dépossédés et dévirilisés par leurs oppresseurs, se sont vus accorder un os à ronger sous la forme de domination sur les femmes avec de nouveaux outils d'oppression. Pourriez-vous approfondir comment cette dynamique de pouvoir a évolué dans les sociétés subsahariennes et quelles en sont les conséquences contemporaines?
Pas toujours, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas faire de généralité. Il y a sur ce continent une grande diversité de structures sociales, donc on ne parle pas de toutes. Mais quand il arrive dans des environnements où les femmes ont du pouvoir, y compris du pouvoir politique, c'est quelque chose qui pour lui est non seulement étrange, mais aberrant. Donc, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Njinga, la fameuse reine Njinga. Pourquoi est-ce qu'elle posait problème aux Portugais? C'est parce qu'elle était une femme et uniquement parce qu'elle était une femme. Ils ne concevaient pas qu'elle puisse être leur interlocutrice parce qu'elle était une femme. Et ça a été la logique de beaucoup d'Européens en arrivant dans des sociétés où donc les femmes avaient le pouvoir. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont sapé ce pouvoir des femmes. Ils l'ont, c'est pas seulement qu'ils l'ont diminué. C'est-à-dire que ce pouvoir a tout simplement cessé d'exister parce que ils ne s'y référaient jamais. Ils l'ont détruit. Ils ont confié toutes, comment dire, les rênes de la société aux hommes qui ont eu la faiblesse d'accepter, qui n'ont pas défendu le modèle social préexistant, qui n'ont pas dit, mais chez nous ici, on ne peut pas faire ci ou ça sans en référer aux femmes. Les hommes n'ont pas dit ça, ils ont vu comment ça leur profitait. Et c'est à partir de là que se sont bâties donc nos sociétés subsahariennes dites modernes, par, comment dire, des sociétés commandées par des hommes qui avaient eu la faiblesse de devenir les affidés des Occidentaux et d'avoir un pouvoir qui était un pouvoir subsidiaire, mais qui était quand même un pouvoir. Et ça a suffi, à mon avis, une catégorie d'hommes légers et vaniteux, mais qui ont fait le lit des hommes de pouvoir tels que nous les voyons aujourd'hui dans nos pays.
Il y a Afo qui dit Léonora parle du pouvoir des femmes et de pratiques et traces à retrouver, réactiver. Fait-elle référence à des pratiques telles que le Koho, j'espère que je dis bien au Cameroun. Je ne peux pas rappeler
Ah, je
si que
vois de quoi
c'est...
elle
Oui.
parle.
Voilà. Est-ce que c'est de cela que vous parlez, Léonora?
Pas uniquement, mais j'en parle un peu dans le livre, hein. Moi, je suis pour que, d'abord, pour que ces sociétés de femmes soient préservées avec leurs pratiques. Celles qui n'ont pas encore lu le livre pourront se le procurer pour voir, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est ça qui intéresse les gens quand on parle du corps, du Mevungu. Mais il n'y a pas que la célébration du clitoris. Mais je suis très favorable, bien sûr, à la célébration du clitoris et à toutes ses significations. Ça, je pense pas que ce soit à réactiver. Je crois que ça n'a pas vraiment disparu, mais qu'il faut appartenir aux communautés concernées pour le pratiquer encore. Ce que je voudrais, c'est, quand je parle de réactiver, c'est regarder une pratique comme celle-là, par exemple, regarder à quoi elle sert, comment elle fonctionne, comment ça opère, à quoi ça sert, à quel besoin cela répond, et voir comment, même si on n'appartient pas au groupe qui a créé ça, à la société de femmes qui a créé cela, voir comment dans notre quotidien actuel, on peut s'inspirer de ça. On ne peut pas devenir la copie de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Et le grand défi devant lequel on est, nous, Africains subsahariens, c'est ça. C'est d'accepter de nous réinventer et de le faire dans nos termes. On sera dans le futur ce qu'on a déjà commencé à être, c'est-à-dire un peu des mutants identitaires. Il faut que la mutation à venir, que ça émane de nos aspirations. Voilà. Il faut que l'Afrique qui vient ressemble à nos désirs, ressemble à nos rêves. Quel est le visage de la félicité telle que nous la comprenons? et pas telle qu'on nous la propose. Et donc, pour ça, il faut se donner des espaces où on prend le temps de réfléchir à soi. Parce que, on va dire que depuis 5 siècles, hein, en particulier dans les régions du continent qui ont été affectées par les déportations transocéaniques, le trafic humain, eh ben, on n'a pas tellement eu le temps de se poser pour réfléchir à ce qu'on voulait être, parce qu'on était toujours dans le combat pour la survie. Parce que dès que cette chose-là s'est terminée, la colonisation a commencé tout de suite. Et en fait, elle s'est jamais arrêtée. On n'est pas complètement décolonisé encore, hein, en Afrique subsaharienne, en particulier francophone. Donc, il faut, maintenant qu'on a compris ça, que voilà, on a encore plein de batailles à mener, il faut se donner des espaces pour mener les batailles de l'imaginaire. Pourquoi Léonora ne se dit-elle pas féministe? Mais c'est peut-être parce qu'elle voudrait que notre imaginaire propose quelque chose qui corresponde un peu plus aux aspirations et aux besoins des femmes de ce continent, plutôt que d'avoir comment dire, la paresse de ramasser ce qu'on t'a jeté comme ça parce que t'as pas eu le temps de réfléchir toi-même à ce que tu voulais dire. Et donc, tu vas prendre le petit truc qu'on t'a jeté et tu vas le colorier avec les couleurs que tu aimes bien, les couleurs qui sont les tiennes. Mais dans le fond, toi-même, tu n'as rien produit, donc tu n'as rien dit. Et moi, je veux qu'on dise, c'est même pas que je veux, j'exige.
Mais ce n'est pas vous seulement qui avez dit, voilà, qui dites que vous n'êtes pas féministe. Géraldine Falladé, qui a écrit, voilà, Turbulente, aussi, voilà, a dit, parce qu'on a dit, mais le livre, c'est un livre féministe. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça que je le définis.
Ben, il
Annette.
va falloir quand même qu'on se pose la question de savoir pourquoi tant d'Africaines perçues comme féministes récusent cette appellation.
Ben oui, il faudra vraiment qu'on y pense. Et vous finissez l'autre langue des femmes avec évidemment la mention des collectifs féminins. Vous parlez
Oui.
de Umoja, ce
Oui.
village qui a été créé très récemment, hein, au 21e siècle, quoi.
Oui, au XXIe siècle.
Par les uns, ce sera notre fin.
Oui, c'est ça, qui a été créé au XXIe siècle par des femmes qui l'ont vraiment bâti de leurs mains, et parce qu'elles ne voulaient plus, ce sont des femmes qui avaient été victimes de violences, qui ne voulaient plus être exposées à ces violences-là, mais elles n'ont pas, comment dire, elles n'ont pas renoncé en relation avec les hommes.
Non, non, non.
Elles ont simplement, comment dire, réglementé la manière dont les hommes pouvaient maintenant relationner avec elles. Et donc,
Ouais.
elles ont été bien sûr combattues à maintes reprises. On a tenté de détruire, des hommes ont tenté de détruire leur village, mais elles ont tenu bon et se sont reconstruites. Et elles n'ont pas fait ça en allant se référer à des doctrines politiques. Elles ont
Ouais.
examiné leurs besoins, elles ont pris leur courage à leurs mains. Alors aujourd'hui, on va vous dire qu'elles sont féministes, mais ce n'était pas ça leur problème. Ce n'était pas ça leur problème.
Ouais, je ne sais même pas si elle se définit comme féministe. Non, parce que
Ah
souvent on
non, pas
pense
du
qu'on
tout.
ouais, souvent on pense qu'on parle oui, des femmes voilà, des Queen Njinga, mais voilà, au 21e siècle, voilà, je pense que c'est au Kenya, non, Rebecca,
Oui, c'est au Kenya. C'est au
voilà,
Kenya.
c'est au Kenya. Au Ghana aussi, on parle de l'exemple d'une autre femme avec ce collectif encore féminin de
Oui,
transportatrice, c'est ce qu'on dirait.
et j'évoque aussi la manière dont des collectifs féminins se sont illustrés pendant la période coloniale pour mener diverses luttes et en se basant là encore sur leurs traditions, sur des pratiques de société de femmes. Qui d'ailleurs existent encore dans ces régions-là, au Cameroun et au Nigeria, par exemple. Nous avons un beau matrimoine, hein,
Oui.
pour employer ce terme, qui peut, voilà, nous servir de base, qui peut nous inspirer, et qui peut nous donner confiance dans notre propre imagination pour inventer notre avenir.
Voilà, et ça, c'est une belle phrase de la fin. Donc, ce riche matrimoine que nous avons. Merci à vous toutes et vous tous qui nous avez suivis. Ben voilà, on est au thème. de cette conversation. Merci beaucoup.